avec David Abiker. Et
8h44, l'heure de retrouver nos esprits libres. Lucie Robquin, rédactrice en chef aux Échos, bonjour. Et Christophe Barbier, éditorialiste, journaliste, comédien, auteur de pièces de théâtre.
Bonjour, bonjour David.
Bonjour Christophe. Les esprits libres, aujourd'hui, nous allons parler ensemble de plastique, direction le Kenya, où 175 délégations nationales essaient de mettre au point un traité de lutte contre la prolifération du plastique, l'équivalent d'un camion poubelle rempli de plastique et rejeté dans l'océan toutes les minutes. Ça fait partie des images pédagogiques brandies par les écologistes et les gens qui veulent nous faire comprendre qu'il y a urgence, Lucie.
Oui, et cette négociation au Kenya, elle est plutôt mal partie. Il y a deux blocs en fait qui s'opposent. Il y a tous les pays producteurs de pétrole qui s'opposent à l'idée même de limiter la production de plastique. Il faut savoir qu'elle a elle a été multipliée par 40 depuis les années 60. C'est absolument considérable, c'est effroyable. Donc vous avez un gros bloc composé des États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Chine, le Brésil, qui refusent l'idée même de limiter la production. On s'oriente donc vers quelque chose plutôt à minima, c'est-à-dire développer le recyclage. On sait qu'on c'est une option qu'on maîtrise très mal aujourd'hui. On ne sait pas recycler le plastique comme on le fait pour le verre ou pour l'acier. On se souvient que même en 2020, pardon, Emmanuel Macron avait voté une loi pour imposer un objectif de recyclage à 100% à l'horizon 2025. On en est très très loin. Cette négociation est donc plutôt vouée à l'échec.
Incroyable, Christophe Barbier, que le remplissage des réservoirs d'automobiles, d'avions et de super-tankers et de bateaux ne suffise pas aux producteurs de pétrole. Il leur faut aussi les dérivés du pétrole.
Mmh. Mais c'est énorme, les enjeux sont énormes. 460 millions de tonnes aujourd'hui, ça a doublé en 20 ans. Et ça va tripler d'ici 2060 si on ne change pas la production, c'est-à-dire nos consommations. Si on n'apprend pas, nous, à se passer d'objets plastiques. Alors, on le fait un petit peu en France. La France est assez exemplaire. On a supprimé les couverts, par exemple. Mais en effet, le recyclage est pour l'instant en échec. 9% seulement des plastiques sont recyclés. Et quand on va dans ces pays, moi je me souviens quand je suis arrivé au Ghana, au Togo, c'est pas la pauvreté sur terre qui m'a le plus choqué, surpris, ému. C'est le spectacle sur le rivage, sur la mer. C'est-à-dire, il n'y a pas de plage. Nous, on dit en France, plage de galets ou plage de sable. Là-bas, c'est plage de plastique ou plage de plastique. Dans les rues, dans les abords, sur les 20 premiers mètres de littoral, on se baigne en poussant les bouteilles en plastique. C'est ça, la réalité.
Attendez, si on reste en Europe, vous avez encore des aéroports où vous achetez un journal, juste un journal, et on vous propose un sac en plastique immédiatement.
Oui,
en France, non. Oui. Mais dans d'autres pays européens, c'est un réflexe, proposer un sac en plastique.
Si on veut que la production se calme, et c'est évidemment pas en essayant de convaincre la Russie, la Chine ou l'Iran qu'on y arrivera, c'est en changeant les modes de consommation des gros consommateurs, c'est-à-dire des Occidentaux. Là encore, franchement, la France est assez pionnière. Allez aux États-Unis et vous verrez que les comportements sont vraiment 10 pas derrière nous.
Ah, aux États-Unis, chaque pomme est emballée dans son emballage plastique, c'est une catastrophe.
Et vendue dans un magasin archi-climatisé.
Et Lucie, pour vous, c'est les consommateurs qui conduisent le changement ou les producteurs ?
Ce sont les producteurs, je pense. Alors, il y a un enjeu économique, on en a parlé, ce sont ces pays producteurs de pétrole qui ne veulent pas faire le moindre effort. Il y a aussi un enjeu culturel majeur, c'est que les pays pauvres voient dans le plastique un facteur de progrès, c'est vrai, hein, c'est une question d'hygiène, beaucoup des outils médicaux sont faits en plastique. Nous, on a largement abusé du plastique au XXe siècle, ils estiment que le XXIe siècle, c'est leur siècle et qu'on ne peut pas les empêcher d'embrasser ce progrès. Donc, il y a aussi ce handicap à surmonter.
C'est pour ça qu'il faut quand même savoir à quoi se destine le plastique. C'est-à-dire que dans tous les usages où on sait qu'à la fin, ça termine dans la nature, il faut interdire l'usage. Dans les usages où on sait que derrière, il y a une filière sérieuse, comme par exemple les outils médicaux, les chirurgiens, ils vont pas acheter ça dans la forêt, là, on peut continuer à produire du plastique.
On va parler d'un recyclage tout à fait étonnant. Il a surpris les Anglais. David Cameron, on pensait l'homme voué à la conduite de ses affaires et à des conférences internationales ou à du lobbying. Et le voilà qui revient au Foreign Office. Ça a surpris tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire sur la démocratie et le système politique anglais, Christophe Barbier ?
D'abord, c'est que les Britanniques, visiblement, en tout cas ce parti-là, a un problème d'armée de réserve. Parce que pour être obligé d'aller chercher un ancien, avec le passif qui est le sien, il était à la Chambre des Lords maintenant, ça veut dire qu'ils ont trouvé personne d'autre. Il n'y a pas de talent parmi la jeunesse pour porter la parole.
Il avait quand même l'expérience.
Bien sûr, l'expérience, ça compte, surtout en diplomatie, mais enfin... Quand même, ça donne l'impression qu'on a fait un peu les fonds de peau. Par ailleurs, ça montre aussi le désarroi de Rishi Sunak, qui en parole parole étrangère, en parole diplomatique, se sent faible, lui, personnellement, pour être obligé d'aller chercher un ancien Premier ministre. Deuxièmement, c'est quand même la trace d'un remords. C'est que le Brexit, ils se rendent compte qu'ils ont fait une énorme bêtise. Et donc, ils vont chercher l'homme par qui le scandale est arrivé. Alors, il ne souhaitait pas le Brexit, Cameron, mais il l'a quand même provoqué. Troisièmement, on va au-devant de quelques difficultés, quand même, parce qu'il y a quand même des ombres qui planent sur David Cameron. Il a quelques affaires financières qui sont un peu gênantes. Il a fait beaucoup de business depuis qu'il a quitté le 10 Downing Street. Est-ce que ça le rattrapera? On verra. Mais surtout, il est accusé d'être l'homme des Chinois. D'avoir avec la Chine des liens économiques, des liens de conseils, des liens qui font peut-être de lui le meilleur ambassadeur des Chinois dans le Royaume-Uni.
Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Jean-Pierre Raffarin a des liens avec la Chine et il a contribué d'ailleurs à ouvrir la Chine aux Français.
Et ça peut être très utile. Mais j'ai pas noté que Jean-Pierre Raffarin ait fait son entrée au Quai d'Orsay pour porter la parole officielle dans le sens de la France. On a besoin de gens qui connaissent les Chinois, qui s'entendent bien avec les Chinois, parce que front contre front, c'est ridicule. De là à les mettre dans des postes de décision où ils vont avoir, parce que David Cameron va avoir toutes les dépêches diplomatiques, il va tout savoir des secrets d'État britanniques. Je serais les Britanniques, je m'inquiéterais un tout petit peu. Par ailleurs, quel bonheur qu'ils ne soient plus dans l'Europe, ces Britanniques. Le Brexit est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Union Européenne depuis 1945. Ils sont partis, qu'ils n'y reviennent pas. Avec les Britanniques, on n'aurait jamais fait le grand emprunt. On n'aurait jamais concerté notre lutte contre la Covid. L'Europe aurait reculé de 10 cases.
Vous sautiez de joie au moment où le Brexit arrivait.
Exactement, j'ai fait des éditos.
Vous avez été constant là-dessus.
J'ai fait des éditos pour dire mais qu'ils s'en aillent. C'est très mauvais pour eux, mais c'est très bon pour nous.
Lucie Robquin.
Vous voulez que je commente sur cette affaire? Moi, je suis...
Non, vous commentez, sur le retour de David Cameron. Est-ce que Christophe disait peut-être qu'ils ont des remords sur le Brexit? Peut-on faire rentrer le dentifrice dans le tube? C'est très compliqué.
Alors, ils ont des remords sur le Brexit, ça c'est certain. Il y a des sondages qui ont été faits il y a quelques mois qui montraient que tous les comtés britanniques regrettaient le Brexit, à l'exception d'un seul situé au nord-est du pays. Donc, c'est oui, ça dit beaucoup de choses sur ces regrets-là. Hier, on entendait un député travailliste qui disait que pour que le Parti conservateur rappelle David Cameron, c'est vraiment qu'ils avaient touché le fond. Moi, je pense que ça en dit beaucoup sur la manière dont Rishi Sunak veut gouverner désormais. Il voulait incarner la modernité, il voulait incarner le changement. Là, il fait appel à une figure historique du parti, assez conservatrice, assez centriste. Voilà, on revient à une vision très traditionnelle du Parti conservateur. Ils sont paniqués à l'idée de perdre les élections de 2025. Les travaillistes sont vraiment en tête. Donc là, on sent un acte de désespoir presque.
C'est pas un choix habile, selon vous?
Non, j'en suis pas certaine. Comme le disait Christophe, David Cameron a un lourd passif. Il va avoir beaucoup de mal à trouver de bons interlocuteurs en Europe. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable à l'échelle européenne. Je pense effectivement que sa proximité avec la Chine va le desservir. Il est par ailleurs plongé dans un scandale, l'un des plus importants que le Royaume-Uni ait connu depuis des décennies. Ça ne va pas être simple de le remettre au cœur du pouvoir.
Vous disiez scandale, c'était le mot-clé de la revue de presse d'Hervé Gattegno. Alors, est-ce que c'est un scandale? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une polémique. Le voyage en Polynésie d'Anne Hidalgo, à la fois pour les affaires parisiennes, il fallait visiter des infrastructures de surf pour les JO, rien que ça, c'est presque rigolo, et puis elle avait tout à fait le droit en tant que mère M-E-R-E d'aller voir sa fille. Ça provoque une polémique qui, selon moi, cache la terrible augmentation des impôts locaux, ou un sujet beaucoup plus important et électoral qui est la modification de la loi Paris-Lyon-Marseille. Sur la polémique, Lucie Robquin.
Sur la polémique, je pense que le grand tort d'Anne Hidalgo, c'est d'avoir voulu cacher son voyage. Elle a essayé d'envoyer des tweets qui donnaient l'illusion qu'elle était à Paris. C'est un tort. Dans les faits, elle avait payé son voyage retour. Je pense que sur le plan budgétaire, il n'y a rien à lui reprocher. D'ailleurs, il y a une commission déontologie qui l'a blanchi il y a quelques jours. En revanche, ce qui est certain, c'est que le budget, c'est l'un des aspects les plus négatifs. Je pense que c'est l'aspect le plus noir du bilan d'Anne Hidalgo. La dette a doublé depuis qu'elle a pris la mairie de Paris. Elle continue d'embaucher massivement des fonctionnaires alors que la population de la ville décline. Elle refuse obstinément de passer les agents de la mairie de Paris aux 35 heures. C'est l'une des seules grandes villes de France qui le refuse. Elle contourne donc la loi.
Les passer aux 35 heures parce qu'ils sont en dessous.
Ils sont à 32 heures.
Voilà, oui.
Voilà, alors certains en viennent à réclamer la mise sous tutelle de la ville de Paris, c'est évidemment très exagéré, les agences de notation ne sont pas si négatives sur la ville de Paris, ne serait-ce que parce que c'est l'une des villes qui prélève le moins d'impôts. On est un peu étonné évidemment parce que la taxe foncière vient d'augmenter de 52%, ça fait très mal aux Parisiens. Et là, le tort à Anne Hidalgo, c'est pas forcément d'avoir augmenté les impôts des Parisiens, c'est d'avoir renié la parole publique. Elle a trahi ses promesses de campagne, elle avait promis que les impôts n'augmenteraient pas. elle fait exactement l'inverse.
Ça fait très longtemps que les impôts locaux doivent augmenter à Paris. Peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Ça aurait dû être fait peut-être progressivement si on compare avec d'autres villes françaises.
Oui, mais fallait
Christophe
le dire.
Barbier.
Fallait le dire dans ce cas-là. Il fallait le mettre au cœur de la campagne. Je vais redresser les comptes, vous allez payer plus d'impôts. C'est comme quand elle a dit, je suis élue à Paris, c'est pas pour aller être candidate à la présidentielle, puis qu'elle l'a été finalement. Donc ça pose un véritable problème. Sur ce voyage, d'abord, ça prouve que les petits arrangements déontologiques, c'est plus possible. C'est-à-dire, je vous paye le voyage aller, je paye le voyage retour, parce que c'est un voyage officiel, mais je vais voir ma fille, ça marche plus. Si sa fille avait vécu à Hawaï plutôt qu'à Tahiti, est-ce qu'elle aurait fait le voyage de Tahiti? Peut-être que non, elle aurait peut-être simplement envoyé son adjoint au sport. Par ailleurs, ce voyage a été un échec. Il y avait une polémique sur une tour des arbitres pour les épreuves de surf, une tour qui menace la barrière de corail. Ce problème, il est pendant. Et puis, ça fragilise quand même beaucoup Anne Hidalgo. Deux solutions. Soit elle rappelle Bertrand Delanoë, puisqu'ils ont rappelé David Cameron en montagne, pour lui servir de conseiller aux affaires étrangères. Je suis pas sûr qu'elle prenne cette solution. Soit,
Bertrand Delanoë ait envie de revenir.
Soit ça nous greffe sur l'autre décision. Changer la loi électorale à Paris, à Lyon, à Marseille. Les élections par arrondissement dont le maire n'est qu'un aboutissement de second degré, c'est pas une bonne chose. Il faut que les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais puissent voter directement au suffrage universel direct pour leur maire.
Surtout dans des très grandes villes. Merci à nos esprits libres du mardi. Christophe Barbier et Lucie Robquin. Je vous dis à la semaine prochaine. Dans un instant, la météo, le flash d'Augustin Lefebvre et Franck Ferrand raconte.